Et bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne va pas déroger à la tradition en vous rappelant, fidèles auditeurs et tristes, j'espère, ou en vous apprenant, welcome, bienvenue, welcome on, à ceux qui nous rejoignent ce jour que 24 notes secondes sur Divergence FM est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bouge sur les grands écrans et ailleurs depuis bien longtemps, plus d'un siècle en tout cas. Pour une fois, je ne le fais pas. Par contre, à chaque émission, je vous rappellerai que notre générique est bien évidemment une musique de film. Vous avez suivi en l'espèce eh bien, celle d'un film de Blake Edwards tourné en 1962, dans les rôles principaux duquel on retrouvait Audrey Hepburn Forever et George Peppard un peu moins. Une musique signée d'Henry Mancini pour un film qui s'appelait Diamant sur canapé. Une chanson bien connue et ô combien pillée qui s'appelait Moon River. Ce jour, eh bien, je suis très très heureux d'annoncer que nous allons consacrer cette émission à un compositeur de musique français, hélas peu connu, et c'est bien dommage, un homme qui pourtant a signé près de 200 musiques de films avant sa mort en 1998, donc il n'y a pas si longtemps. Il était né le 28 janvier 1908 à Constantinople, à l'époque ça s'appelait encore comme ça, en Turquie. Son nom de l'époque était Paul Misrachi, à peu près comme ça, je suppose. En tout cas, il passera à la postérité en tant que Paul Misrachi. Alors peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose, c'est bien dommage, mais sans doute, je l'espère. En tout cas, certaines des musiques que nous allons écouter ce jour, mais c'était vraiment un crève-cœur que d'en choisir parmi donc près de 200 partitions, surtout que la carrière de Paul Misrachi ne s'est pas limitée à la musique de film. Eh bien, j'espère en tout cas que certaines ne vous seront pas inconnues. Donc, né en janvier 1908 en Turquie, avant que son père eh bien, ne l'emmène d'abord à Bucarest, donc en Roumanie. Ai-je besoin de vous l'apprendre avant qu'il n'arrive en 1917, soit fort jeune, à l'âge de 9 ans, en France, et plus précisément à Paris, où il prend très rapidement eh bien, des études de musique, musique pour laquelle il présente des dons qui ne feront ensuite que se confirmer, et où il commence à écrire en tout cas des pièces musicales variées. En 1929, c'est-à-dire âgé d'une vingtaine d'années, eh bien, il intègre une troupe bien connue dans les années 30 et qui le fut jusqu'aux années 50, même si elle doit être aujourd'hui bien oubliée, celle de Ray Ventura et de ses collégiens, de ses orchestres à sketch que le grand orchestre du Splendide, quelque part dans les années 80, ressuscitera et d'ailleurs réutilisera certaines des musiques fameuses. Et eh bien, Paul Misrachi rejoindra la joyeuse bande de Ray Ventura et ses collégiens, une joyeuse bande dans laquelle on retrouvera d'autres noms plus ou moins connus, et notamment celui de Sacha Distel, crooner quand même bien connu, ou celui un peu moins connu, mais peut-être par sa femme, de Loulou Gasté. Mais oui, Loulou Gasté, forcément, vous vous en souvenez, c'était l'âme de Lynn Renault. Lynn, on t'aime encore, toujours. Et donc, pendant une dizaine d'années, eh bien, Ray Ventura et Paul Misrachi vont enchaîner succès sur succès. Ils vont composer quelques chansons qui restent, je dirais, dans l'héritage patrimonial du cinéma français et plus si affinité. Alors, on va écouter celle-là. Et je suis sûr, vraiment je suis sûr, que vous l'avez déjà entendue ce jour dans 24 notes secondes.
Allô?
Allô, James, quelle nouvelle, absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour?
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident. Une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien.
Madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Et la pairie dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle! Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé?
Cela n'est rien, Madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Lucas, quelle nouvelle! Notre château est donc détruit? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit?
Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Ah, on n'en fait plus des chansons comme ça, un chef-d'œuvre absolu, en tout cas à notre goût, une musique de Paul Misraki, Tout va très bien, Madame la Marquise, une chanson de 1935. Alors, nous sommes dans 24 notes secondes, donc en fait, cette chanson fut réutilisée dans un film tourné en 1936 au titre éponyme, ça veut dire que c'était le même titre que le titre de la chanson, et un film de Henri Wüchsleger avec Marguerite Moreno, Noël Noël, Colette Darfeuille, Jean Brochard, des noms qui ne vous disent pas grand-chose. Et puis, Réventura et ses collégiens, donc, que je viens d'évoquer. Les collégiens parmi lesquels on retrouvait Paul Misraki, héros de ce jour. Une chanson absolument géniale et qui aussi, en 1935, déjà, avait quelques relents un peu aigres, puisque justement, dans cette époque-là, on disait que tout allait très bien alors qu'Hitler était déjà au pouvoir et que les nuages sombres, déjà ceux de la guerre d'Espagne dès 1936 et puis d'autres guerres, bien évidemment, quelques années plus tard, les nuages sombres s'accumulaient. Mais bon, en 1935-36, ma foi, on avait encore le cœur à rire. Et ensuite, eh bien, d'autres chefs-d'œuvre, en tout cas d'autres chansons fort connues, furent composées par Paul Misraki. Citons-en deux autres seulement, je vous épargnerai de les fredonner. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine en 1936. Et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Une chanson beaucoup reprise depuis en 1938. Eh bien oui, c'était de Paul Misraki et vous ne le saviez pas. Merci Divergence FM, merci 24 notes secondes et surtout merci Paul Misraki, donc, qui dans les années 30-40 eh bien, enchaîna les films. Il y en a tellement que j'hésite à en picorer quelques-uns. Alors choisissons quelques réalisateurs comme Jean Renoir, pour lequel Paul Misraki composa la musique dont Purge bébé en 1931. Peut-être pas un de ses meilleurs films, cela dit. Henri Decoing avec Battement de cœur et notre cher Daniel Darieux en 1938, Henri-Georges Clouzot et Manon en 1948, et puis quelques autres, et même Orson Welles en 1954 avec Dossier secret. Mais pour illustrer justement le talent protéiforme et multiforme de Paul Misraki, eh bien nous allons passer des années 30 aux années 60, donc un genre bien différent, puisque Paul Misraki eh bien su se renouveler au point de séduire les réalisateurs de ce qu'on appelait rapidement, ce qu'on appela, pardon, rapidement en 1958-59 la nouvelle vague. Alors évidemment, il y avait Truffaut, il y avait Rivette, il y en avait quelques autres et il y avait Chabrol. Et en l'espèce, un film tourné en 1959 sur un scénario de Paul Guégoff, Les Cousins, dans lequel on retrouvait deux acteurs qui allaient faire plus que leur chemin, Gérard Blin et Jean-Claude Brialy, mais oui. Et puis surtout, et en regardant les photos de cette sublime créature, je me demande comment il peut en être ainsi, eh bien, on retrouverait à leur côté, en jeu évidemment de lutte, entre les deux, ai-je besoin de le préciser, la délicieuse Juliette Méniel, et oui, son nom ne vous dit rien, à moi aussi, à vrai dire, elle est pourtant absolument sublime. Alors, qu'est-elle devenue? Je lancerai l'enquête et je reviendrai dans une prochaine émission. En tout cas, on va s'écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle était signée Paul Misraki, Les Cousins, dans 24 notes. Voilà, vous l'avez compris, c'est dans un genre bien différent de Tout va très bien, Madame la Marquise, mais c'est toujours Paul Misraki à la baguette et puis surtout à la composition dans 24 notes secondes, un extrait de la bande originale des Cousins. Les Cousins qui étaient tout simplement eh bien, le second film de Claude Chabrol. Claude Chabrol qui avait réalisé l'année précédente, sauf erreur de ma part, le très remarqué Les Beaux Serges avec... Sauf erreur de ma part, là encore, déjà Jean-Claude Brialy. Et ma foi, eh bien, c'était pas forcément une histoire des plus originales, mais par contre, eh bien, c'était une façon de les raconter qui libérait d'une certaine manière cette certaine tendance du cinéma français que François Truffaut avait brocardée dans Art quelques années auparavant, se faisant au passage quelques ennemis mortels et définitifs parmi les réalisateurs français des années 50, n'est-ce pas, Claude Autant-Lara. Mais ma foi, il est vrai que pendant quelques années, car la nouvelle vague ne fut pas si étendue, eh bien, ce fut un nouveau souffle accompagné musicalement par un compositeur qui avait à l'époque déjà 50 ans, puisqu'il était né en 1908. Vous vous en souvenez, Paul Misraki. On va écouter un autre extrait d'une bande originale, alors là, qui n'est pas vraiment de la nouvelle vague, mais qui est toujours pour un film signé en 1959, car il est difficile de classer Louis Buñuel, comme vous voulez, qui en était le réalisateur. Eh bien, Louis Buñuel, je dirais que c'est une vague à lui tout seul, cet homme dont la carrière a débuté dans les années 30 et s'est poursuivie jusqu'aux années 70, ma foi, à un univers bien à lui, ou plutôt a eu plusieurs univers bien à lui, surréaliste, mexicain, caustique, à la Jean-Claude Carrière et dans les années 60 peut-être avec des films un peu plus commerciaux puisqu'en l'espèce La Fièvre monte à El Pao, c'est le titre du dit film, réunissait Gérard Philippe, Maria Félix et Jean Servais, un magnifique et bien oublié acteur pour une sorte de fable politique dans une capitale, El Pao, d'une île qui se... C'était quelque part en Amérique latine, j'en bafouille, juste pour dire qu'évidemment, ce n'était ni une vraie île, ni une vraie capitale, mais par contre qu'il était facile d'y voir quelques allusions politiques. Mais, si le film est fort connu, eh bien, ce n'est pas forcément pour son récit, encore moins pour son réalisateur, pas forcément même pour sa musique, mais tout simplement parce que ce fut le dernier film tourné par Gérard Philippe, qui décéda avant sa sortie le 25 novembre 1959, il y a déjà bien longtemps donc, mais il n'est pas besoin de le souligner. dernier, Gérard Philippe constitue encore une icône qui transcende les générations de cinéphiles, mais aussi évidemment de théâtreux, n'est-ce pas, Francis Huster, et qui donc continue à s'imposer comme une figure magique. Alors, à ma connaissance, Gérard Philippe n'avait aucune idée en tournant le film que ce serait son dernier, mais ma foi, c'est à cette onde-là que le jugèrent et les spectateurs de l'époque et ceux d'aujourd'hui. C'est peut-être un peu dommage, il y avait peut-être plus à prendre dans un scénario co-signé par Luis Buñuel, Luis Alcoriza, un de ses vieux complices, et quelques autres, mais on ne se refait pas, c'est un peu Gérard Philippe et hop, toute proportion gardée, notre James Dean à nous, avec une carrière fulgurante, un peu plus longue que celle de James Dean, mais en tout cas trop brève et trop rapidement abrégée, et donc c'est à cette aune qu'on peut juger ce film, mais on va l'apprécier différemment, évidemment en écoutant un petit extrait de sa bande originale, un tout petit extrait, et je m'en excuse, La fièvre monte à El Pao, une musique de Paul Mizrachi sur Divergence FM. Une musique d'ambiance où ça y ressemble pour un extrait de la bande originale de La fièvre monte à El Pao, un film de Luis Buñuel, c'est mieux, tourné en 1959. Une musique de Paul Mizrachi, notre héros de ce jour, juste indiquant, je vais y arriver, que le directeur de la photographie du dit film était rien moins que Gabriel Figueroa, que les cinéphiles les plus pointus connaissent peut-être comme un collaborateur d'Orson Welles et de quelques grandes figures du cinéma mexicain, puisque comme je l'ai dit, Luis Buñuel, des hasards de sa vie, a fait une carrière mexicaine entre autres, mais ce n'est pas lui, je l'ai dit, notre héros de ce jour, c'est Paul Mizrachi, l'homme protéiforme qui a su adapter son talent musical à des formes extrêmement différentes. Je vous l'ai dit, nous n'allons pas égrener la liste des plus de 180 films dont il a signé la musique, mais rien qu'en regardant cette filmographie, on voit sa diversité éblouissante. On peut signaler qu'il avait déjà collaboré avec Luis Buñuel en 1956 pour La mort en ce jardin, qui mettait en vedette ce frère de ma part Georges Marchal, qu'on le vit même avec Jean-Luc Godard, puisqu'il a signé la musique d'Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Cochione. Je pense que c'était plus à cause de Lemmy Cochione et donc de cette série de films qui mettait en vedette cet acteur dont le nom m'échappe pour l'instant, ça me reviendra plus tard, que parce qu'il s'agissait de Jean-Luc Godard. et quelques autres comme Bernard Borderie, l'un des cinéastes de KPDP bien connu des années 60 ou 70. Bref, une très grande diversité qu'on va à nouveau illustrer en faisant appel là encore à une icône du cinéma français, en l'espèce Jean-Pierre Melville, encore un homme dont l'influence pèse encore dans le cinéma français contemporain, qui a tourné, à ma souvenance, une petite dizaine de films, ma foi tous comptent, et Le Doulos, tourné en 1963 avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal, compte aussi bien que les autres. Alors, Le Doulos, eh bien, c'est tout simplement l'indicateur, et donc dans ce film, Jean-Pierre Melville eh bien, raconte justement l'histoire des rapports tortueux entre policiers et indicateurs. Ma foi, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, on retrouve une distribution qui est rien moins qu'éblouissante, puisqu'il y a Serge Reggiani, Jean Desailly, Michel Piccoli, excusez du peu, quelques femmes, mais souvent peu de femmes dans l'univers de Jean-Pierre Melville. Ça fait un peu partie de la figure du genre. Le tout évoquait, bien sûr, le cinéma américain, le film noir, dont Jean-Pierre Melville était un des amoureux fous, un passionné de cette époque, comme beaucoup aussi d'autres cinéastes de la Nouvelle Vague, même si lui était un peu à part. C'est une autre histoire. En tout cas, un film qui devait beaucoup donc au film noir américain. Par contre, la musique, pas grand-chose. Et puis, ma foi, on y gagnait. Ce n'est certes pas Miklos Rossa, ce n'est certes pas Max Steiner, mais c'est Paul Mriskraki, et c'est pas mal non plus. Donc un extrait de cette bande originale, Le Doulos, Jean-Pierre Melville, 1963.
Thank you.
Voilà, un extrait de la bande originale du Doulos, c'est un film de Jean-Pierre Melville tourné en 1963. Une musique de Paul Misraki auquel nous consacrions, mais c'est déjà fini, promis, nous reviendrons avec Paul Misraki pour une seconde émission auquel nous consacrions cette émission de 24 notes secondes, mais évidemment, nous allons la conclure en musique et non par mon bavardage, en écoutant un extrait d'une bande originale d'un film sorti en 1960, peut-être l'une des musiques les plus connues de Paul Misraki, en tout cas l'un des films les plus connus des années 60. Ça s'appelait « Et Dieu créa la femme ». Mais oui, alors c'était de 1956 en fait, et non pas 1960, pardonnez-moi. Et évidemment, « Et Dieu créa la femme », eh bien c'est l'explosion d'une actrice qui jusque-là n'avait tourné que des rôles, disons, plutôt niais, où elle n'avait pas manifesté un talent dramatique, disons, plutôt épanoui. Mais ma foi, ce fut son année, c'était son mari, c'était aussi son réalisateur, Roger Vadim, qu'on a un peu de mal à rattacher à la Nouvelle Vague, mais pourtant il en était. Et Dieu créa la femme, eh bien, ai-je besoin de le préciser, ce fut pour le cinéma, comme pour la femme, comme pour Brigitte Bardot, comme pour les mâles de l'époque, une grande explosion de diverses variétés, mais je ne vais pas entrer dans les détails. On va plutôt laisser place à la musique, hommage à Paul Misraki, un extrait large de « Et Dieu créa la femme » et il a bien fait. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.
Antoine, il était dans le quart de Saint-Tropez. Il m'a dit que j'ai...